Donc, voilà, donc je vous fais une petite histoire sur la formation du système solaire. Bon, selon la vision classique, tout commence à partir d'un disque de gaz et de poussière autour du Soleil naissant, et c'est à l'intérieur de ce disque que les poussières s'accrètent l'une avec l'autre pour former d'abord des planétésimaux, et ensuite des planètes, les planètes géantes d'abord, les planètes telluriques ensuite. Et en même temps, on donne forme au réservoir des petits corps, la ceinture des astéroïdes, la ceinture des Kuiper. Donc il y a toute une série de modèles qui ont été développés dans les années et qui, bon, même s'ils ont certains problèmes sur quelques points techniques, semblent donner un panorama assez consistant, assez clair. Mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans les modèles, dans ces scénarios, grands scénarios qui avaient été dessinés jusqu'à maintenant. Ce qui ne va pas est que tous ces modèles ignorent quelque chose de fondamental et que pourtant la Lune nous rappelle chaque mois, à chaque fois qu'elle s'élève sur l'horizon, c'est-à-dire les bombardements tardifs. Donc la Lune est l'élément du système solaire qui témoigne le mieux pour ce grand bombardement qui a lieu tardivement, 650, 700 millions d'années après la formation planétaire. Les grandes taches sombres que vous voyez à l'œil nu sur la surface de la Lune, c'est des grands bassins, de grandes structures d'impact qu'on appelle les bassins, ont un diamètre supérieur à 200 km. À l'intérieur de ces bassins, il y a eu une sortie de lave jusqu'à 3,6 milliards d'années. Et donc, quand vous comptez les nombres de cratères au fond des bassins, vous avez une vision directe de l'intégrale du taux d'impact entre il y a 3,6 milliards d'années et aujourd'hui. Par contre, quand vous regardez à côté, sur les hauts plateaux de la Lune, qui n'ont pas été remplis de lave à la formation des bassins, vous avez aussi des cratères, et le nombre des cratères vous donne une idée de l'intégrale du taux d'impact entre l'âge de formation de la Lune, il y a 4,5 milliards d'années, et aujourd'hui. Et donc vous voyez que là, il n'y a presque pas de cratères, et ici, les terrains sont saturés de cratères. Donc cette simple observation vous montre que le taux d'impact sur la Lune était énormément plus élevé dans les premiers 600-700 millions d'années de vie de la Lune que depuis 3,6 milliards d'années. La question est, quelle était l'histoire de cet impact? Et là-dessus, il y a eu en gros deux écoles qui se sont affrontées pendant 30 ans, depuis l'émission Apollo, en gros. Donc, on sait assez bien que depuis 3,6 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, le taux d'impact a été plus ou moins constant. Donc, la question est, quelle était l'évolution temporelle du taux d'impact avant il y a 3,6 milliards d'années? Donc, un camp qui est mené par Bill Hartmann aux États-Unis et Gerhard Neuckomm en Europe prévoit que le taux d'impact a baissé depuis l'âge de la formation de la Lune jusqu'à 3,6 milliards d'années de façon monotone et exponentielle. Cette courbe est absolument tracée à la louche, à la main. Il n'y a aucune donnée, ces points-là sont juste des suppositions, il n'y a aucune donnée qui vraiment caractérise ce type de décroissance. L'argument base est de supposer que bon, la Lune s'est formée en environ 10 millions d'années, et donc on prend la moitié de la masse de la Lune, on suppose que c'est formé en 10 millions d'années, ceci nous donne un taux d'impact initial, on a un taux d'impact final, on sait que dans les systèmes solaires, les processus physiques normalement ont une allure d'exponentielle, et on trace un exponentiel. Il n'y a rien plus que ça. Et en plus, ce n'est même pas consistant, parce que les bombardements de la Lune viennent d'objets qui sont sur des orbites autour du Soleil, tandis que la formation de la Lune vient par accrétion d'objets qui sont en orbite autour de la Terre. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, on ne peut pas vraiment le rapporter sur les mêmes diagrammes. Donc, ça, c'est la base de ce type de courbe de décroissance exponentielle proposée par Neuckomm et Hartmann. Il y a un autre camp qui a commencé à s'activer dès que les échantillons lunaires ont été ramenés sur Terre par les astronautes, qui dit que non, le taux d'impact n'a pas eu une décroissance continue exponentielle, le taux d'impact après la formation lunaire était assez faible, et il y a eu un cataclysme, donc un surnombre d'impacts concentré entre 4 milliards d'années et 3,8 milliards d'années à partir d'aujourd'hui. Donc un gros cataclysme. Bon, les deux camps s'affrontent, et quels sont les arguments en faveur des uns et des autres? Donc, le premier argument qui a été apporté en faveur du cataclysme est que si on fait une analyse des échantillons lunaires, aussi bien ceux qui ont été collectés directement sur la Lune par les astronautes, mais aussi quand on regarde les météorites lunaires, qui peut être un ensemble moins biaisé, parce que les météorites lunaires viennent un peu de partout de la Lune, tandis que bon, les échantillons Apollo viennent des ondes d'atterrissage des Apollo. Mais toutes ces roches ont des âges d'impact qui sont entre 3,9 et 3,8 milliards d'années. Et c'est très, très difficile de trouver des roches qui ont des âges d'impact plus anciennes, au-delà de 4 milliards d'années. Et donc, ceci suggère qu'il y a eu un épisode de cratérisation intense, et assez courte, centré autour de 3,9 milliards d'années. Et c'est l'argument initial proposé par Terra déjà en 1974. Le contre-argument est que, bon, même si vous imaginez une décroissance monotone comme ça, vous avez bon, un taux d'impact énorme, donc les roches sont choquées ici, encore après, encore après, encore après. Et donc, finalement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, à chaque fois qu'il y a des gros chocs, les horloges sont remis à zéro. Et donc, ce que vous voyez dans les roches, c'est l'instant T à partir duquel les roches commencent à avoir une chance de ne plus être choquées jusqu'à nos jours. Et donc, cet argument permet de sauver, à première vue, la possibilité d'une décroissance exponentielle monotone du taux d'impact. Mais il y a un deuxième argument en faveur d'un cataclysme, qui est le fait que les bassins eux-mêmes ne sont pas distribués plus ou moins isotropiquement sur l'échelle temporelle entre l'âge de la formation de la Lune et 3,8 milliards d'années. Les bassins semblent s'être formés entre, dans cette période de 100 millions d'années, entre 3,9 et 3,8 milliards d'années. Et ça, c'est un argument très fort, parce que les bassins d'impact, c'est les structures d'impact qui ont été provoquées par les impacteurs les plus grands. Alors, quand vous avez une population de petits corps, il y a normalement une distribution des tailles. Il y a beaucoup de corps petits et il y a beaucoup moins de corps grands. Et donc, si c'était 3,8 milliards d'années était juste la fin de ces bombardements, ça serait très bizarre que les plus gros impacteurs arrivent à la fin. Il n'y a aucune raison dynamique pour ça. Et donc, si vous avez un taux d'impact qui décroît, statistiquement, vu que vous avez moins de gros impacteurs que des petits, les gros impacteurs arrivent d'abord et la queue de l'accrétion devrait être faite uniquement par les petits impacteurs. Donc, la formation tardive des bassins semble contredire cette vision d'une décroissance continue du taux de bombardement. Donc, le contre-argument à ça est assez faible. Et en gros, il faut réfuter que les impacts se sont tous formés à ce moment-là. Parce qu'autrement, il n'y a aucune raison. Il faut absolument accepter l'idée d'un cataclysme. Donc, l'idée est qu'en fait, on a collecté des tas d'échantillons autour des bassins principaux. Mais en fait, on continue à échantillonner des éjectats d'un seul bassin, Imbrium, qui était le dernier et très énergétique, et donc a envoyé des éjectats un peu partout sur la Lune. Et donc, où qu'on collecte les roches, on récolte des éjectats d'Imbrium. Et donc, ce n'est pas vrai qu'il y a 15 bassins dont l'âge de formation entre 3,8 et 3,9, il y en a seulement un. C'est un argument assez faible. Il y a encore un autre argument en faveur du cataclysme, qui est le suivant. Si vous prenez la courbe exponentielle d'Hartmann et Neukomm et vous faites l'intégrale de la masse qui est déposée sur la Lune, c'est une fraction substantielle de la masse de la Lune. Et donc, en supposant que les projectiles étaient grosso modo comme les projectiles actuels, les météorites, conduite ordinaire, conduite carbonée, avec la matière qui tombe sur la Lune, il tombe aussi une quantité d'éléments sidérophiles. Et il y aurait bien trop d'éléments sidérophiles déposés sur la surface de la Lune par rapport à ce qu'on retrouve aujourd'hui sur la Lune. Par contre, si vous ne prenez pas cette courbe exponentielle qui décroît tout doucement entre 4,5 milliards d'années et 3,8, mais vous prenez un pic, un cataclysme, en partant de la distribution des bassins et la distribution des cratères, vous pouvez déduire qu'environ 5, 10 puissance 21 grammes des matières ont frappé la Lune pendant ces cataclysmes. Et si vous prenez un rapport chondritique, éléments sidérophiles vers les autres, vous trouvez que sur la Lune, on aurait dû déposer une quantité d'éléments sidérophiles qui est tout à fait compatible et consistant avec ce qui est récolté sur la Lune, ce qu'on observe sur la Lune. Donc, c'est un argument très, très fort, et donc le contre-argument est très, très faible. Il faut dire que les impacteurs, pendant toute cette phase de décroissance du bombardement, étaient très différents des météorites actuelles, et en gros, étaient dépourvus d'éléments sidérophiles. Donc, voilà. Donc, dans cette dialectique, disons, les experts commencent à pencher de plus en plus vers une vision du bombardement tardif comme un cataclysme qui a eu lieu tardivement et non pas comme une décroissance exponentielle du taux de cratérisation. Le seul argument qui restait en faveur des gens qui préféraient une décroissance douce et exponentielle était, oui, mais il n'y a aucun modèle dynamique pour expliquer un cataclysme dans les systèmes solaires. Et donc, c'est pour ça, c'est ça qu'on va s'en charger dans 2 minutes. Donc voilà, un petit résumé, donc les grands bombardements tardifs en quelques faits, donc après toute cette histoire, si on penche sur la vision du cataclysme, Donc il s'agit bien d'un cataclysme qui s'est déclenché soudainement il y a 3,9 milliards d'années, donc à peu près 600 millions d'années après la formation des planètes. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle tardif. C'est un événement global. Jusqu'ici, on a parlé de la Lune parce que c'est l'objet qui garde les meilleures traces du bombardement tardif. Mais en fait, on trouve des traces aussi sur Mercure, sur la Terre, sur Mars, même sur Vénus et même sur les astéroïdes comme Vesta, les météorites qui viennent de Vesta, les HED, ont aussi des âges de choc d'il y a 3,9 milliards d'années. C'était un bombardement très intense, environ 20 000 fois le taux de bombardement actuel. Ça veut dire que la Terre, à l'époque, était frappée par un objet d'un kilomètre tous les 20 ans. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle grand. Et donc c'est un bombardement, donc grand bombardement tardif. La durée de ces cataclysmes est plus ou moins mal contrainte, entre 50 et 150 millions d'années. Et ça vient du fait que bon, 150 millions d'années, c'est l'éparpillement des âges d'impact quand on regarde, quand on date les échantillons. Mais évidemment, il y a aussi une barre d'erreur sur les datations. Donc ça pourrait être aussi court que 50 millions d'années ou aussi long que 150 millions d'années. Donc cette vision cataclysmique, eh bien, mais elle défie une vision naïve que tout le monde avait du système solaire. Donc ce système solaire qui naît en partant d'un chaos primordial, donc une série de collisions qui vont former les planètes, et ensuite un système qui évolue donc graduellement du chaos initial vers l'ordre actuel. S'il y a eu un cataclysme 600 millions d'années après la formation planétaire, ça veut dire que l'évolution du système solaire n'était pas comme ça. Il y a eu un chaos initial, on a formé les planètes, le système évoluait vers un état d'équilibre métastable qui était différent de celui actuel, et puis tout d'un coup a changé de structure, et il est devenu le système que nous connaissons aujourd'hui. Et les bombardements tardifs doivent marquer ces changements soudains de structure. Donc, il faut comprendre quelle était la structure du système solaire avant, cet ordre métastable, et qu'est-ce qui l'a amené à évoluer vers le système actuel soudainement à 600 millions d'années. Donc, on a commencé à réfléchir à ces problèmes environ il y a 2 ans, avec un groupe de collègues qui ont passé un certain nombre d'années sabbatiques à Nice. Et l'idée du départ est que si on veut avoir un bombardement cataclysmique, bon, ceci peut être possible si seulement si il y a un réservoir de petits corps quelque part dans le système solaire qui est massif et qui est stable pendant 600 millions d'années, et puis tout d'un coup devient instable. Alors comment est-ce qu'on peut changer les caractères de stabilité d'un réservoir de petits corps? Il faut déplacer les planètes, et en particulier les planètes géantes qui sont celles que forcent les perturbations principales sur les objets. Bon, facile à dire, difficile à faire. Non, en réalité c'est facile à faire aussi. En fait, on sait, par exemple, que dès qu'on on a un système de planètes, par exemple ici les 4 planètes majeures de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, immergées dans un disque de planétésimaux, eh bien les planètes dispersent les planétésimaux, et ainsi faisant, elles doivent migrer. Donc ici, c'est une petite simulation numérique, le temps est en haut, les petits points verts sont les planétésimaux, ils ont une petite masse individuelle, mais cumulativement, ont une grande masse, par exemple dans cette simulation 50 millions d'années. Les axes malheureusement sont un peu mangés par les tableaux, donc il y a le demi-grand axe ici, c'est-à-dire la distance moyenne du Soleil entre 5 et 30 unités astronomiques, et l'excentricité ici qui est une mesure de la différence entre l'orbite et un cercle. Donc on a des orbites circulaires quand l'excentricité est zéro et très allongée quand l'excentricité est grande. Donc voyons un peu ce qui se passe. Vous savez que dès qu'on démarre la simulation, ben les planètes, les disques des planétésimaux ne peuvent pas rester stables, et violemment perturbés par les planètes, les planétésimaux sont dispersés partout. La plus grosse partie est éjectée du système solaire, mais il y a une partie aussi qui rentre à l'intérieur du système solaire, et donc peut causer un bombardement très intense des planètes. Et les planètes géantes migrent, en particulier, vous voyez Jupiter, Uranus et Neptune se déplacent vers l'extérieur dans ce processus, et ainsi faisant, ils détruisent les disques des planétésimaux au fur et à mesure qu'ils avancent. Effectivement, une telle évolution du système planétaire amènerait à un bombardement très intense des planètes telluriques, d'intensité comparable à celui du bombardement tardif, mais vous voyez ici les temps d'échelle. Ce type d'évolution démarre tout de suite, donc on aurait un bombardement intense, mais pas tardif, plutôt précoce. Donc on peut avoir la même chose, mais tardivement. Donc il faut trouver un mécanisme pour déclencher la migration planétaire tardivement et pas tout de suite, dès que la simulation démarre. Et la raison pour laquelle la migration planétaire et la destruction du disque des planétésimaux démarrent immédiatement ici, et qu'on a mis au départ les planétésimaux partout, y compris sur des orbites très très proches à celles des planètes, entre les planètes, donc où les orbites sont très instables. Mais ça, ce n'est pas tout à fait correct, parce qu'on sait que bon, dans les systèmes solaires, il y avait au départ les planètes, les planétésimaux et une nébuleuse. Et ces nébuleuses, selon les observations astrophysiques, typiquement restent autour des étoiles quelques millions d'années, disons entre 3 et 5 millions d'années. Et jusqu'à quand il y a la nébuleuse, les planètes peuvent éjecter les planétésimaux, mais ne vont pas répondre aux planétésimaux, parce que les planètes sont verrouillées dans la nébuleuse. La nébuleuse a grosso modo 100 fois plus de masse que les planétésimaux. Donc, quand la nébuleuse disparaît, ce qui correspond, si vous voulez, au début de nos simulations numériques, qui ne tiennent pas compte de l'interaction avec les gaz, on s'attend à trouver les planétésimaux seulement sur des orbites dont la vie dynamique est de l'ordre de la vie de la nébuleuse. Donc si vous avez une orbite qui devient instable tout de suite, sur un temps qui est plus court de 3 millions d'années, cet objet devrait avoir été éliminé par les planètes très vite, très tôt, quand la nébuleuse est encore en place. Et donc, une fois que la nébuleuse est partie, on s'attend à trouver les planétésimaux là seulement où la vie dynamique des objets est de l'ordre de 3 millions d'années ou plus longue. Donc, si on met les planètes géantes sur des orbites un peu plus rapprochées, comme ici, entre Jupiter et Neptune, entre 5,5 et 15 unités astronomiques, on trouve que la vie dynamique des planétésimaux est égale ou dépasse celle de la nébuleuse seulement au-delà de la dernière planète. Donc cet histogramme gris montre la vie dynamique des planétésimaux en fonction de leur distance héliocentrique. Donc la morale est que quand on fait ces simulations sur l'évolution des planètes en interaction avec les disques des planétésimaux une fois la nébuleuse dissipée, on ne doit pas s'attendre qu'il y ait des planétésimaux entre les planètes, on s'attend que les planétésimaux forment seulement un disque transneptunien. Autrement dit, les conditions initiales appropriées ne sont pas celles-ci, mais devraient être comme celle-ci. Donc les quatre planètes géantes, très peu de planétésimaux entre elles, et les disques massifs des planétésimaux seulement au-delà de la dernière planète. Et si on démarre d'une situation de ce type, l'évolution va être assez différente. Parce que vous voyez que seulement la partie interne du disque développe une instabilité, donc les planétésimaux vont former ce type de structure, et la migration est très très lente. Vous la voyez à peine, surtout si vous vous concentrez sur la dernière planète, et pourtant ici on a déjà des échelles de temps de l'ordre de 300 millions d'années. Donc c'est une simulation très très lente qui est drivée, si vous voulez, seulement par le petit nombre de planétésimaux qui s'échappent tout doucement au compte-goutte depuis ces structures. Donc ce type d'évolution donc, peut perdurer pendant très longtemps, jusqu'à quand quelque chose de gros arrive. Et ce quelque chose de gros peut être la traversée d'une résonance par deux planètes. Donc, par exemple, dans cette simulation, à 880 millions d'années, Saturne va traverser la résonance en deux avec Jupiter, qui est marquée par cette ligne rouge, donc on va la voir un instant. Et quand ceci a lieu, les excentricités de Jupiter et de Saturne augmentent, et ceci déstabilise les systèmes. Uranus et Neptune ne peuvent plus rester à proximité de Jupiter et Saturne, parce que Jupiter et Saturne sont devenus excentriques. Donc, Uranus et Neptune deviennent très excentriques à leur coup, et ils commencent à pénétrer alors dans les disques, ils détruisent tout d'un coup tous les disques des planétésimaux, et l'interaction entre les planètes et les planétésimaux, finalement, place Uranus et Neptune sur deux orbites très semblables à celles des orbites actuelles, à 20 et à 30 unités astronomiques respectivement. Donc voici une représentation cartésienne de ce qu'on vient de voir, donc les temps, et vous avez les déplacements des planètes. Donc pendant 880 millions d'années dans cette simulation spécifique, vous avez une migration très très lente que vous ne voyez pratiquement pas, vous pouvez apercevoir seulement sur la planète la plus lointaine. À 880 millions d'années, Jupiter et Saturne traversent cette résonance en deux qui a lieu quand les rapports des deux périodes orbitales de Saturne et de Jupiter égale exactement à 2. L'effet de la traversée de cette résonance est très déterministe et va augmenter les excentricités des planètes. Ici, chaque planète est représentée par deux courbes qui représentent la distance minimale et la distance maximale du Soleil de la planète. Donc si les deux courbes sont superposées, ça veut dire que l'orbite encercle toujours la même distance du Soleil, et quand les deux courbes se séparent, ça veut dire que l'orbite est devenue elliptique et donc la planète passe d'une distance minimale à une distance maximale, et donc les deux courbes divergent. Donc à la transition de la résonance en deux, Jupiter et Saturne deviennent un peu excentriques, ceci déstabilise Uranus et Neptune qui deviennent très excentriques, les planètes peuvent avoir des rencontres entre elles, dans cette simulation spécifique ils changent même de place. Ça n'a pas lieu toujours, mais ça peut arriver, ça arrive à peu près dans 50% des cas, ils ont aussi des rencontres avec Saturne. Donc, ils vont partir vers l'extérieur, pénètrent dans les disques, on l'a vu dans l'animation, détruisent les disques. Et l'interaction entre les planètes et les disques a un effet systématique de réduire les excentricités des planètes. Et donc, à la fin, les systèmes arrivent sur une configuration stable où les orbites rassemblent, grosso modo, aux orbites qu'on a actuellement avec une planète, une géante des glaces à 20, une géante des glaces à 30, Jupiter et Saturne, avec des orbites avec une certaine excentricité. Donc, ce modèle a deux points de force qui sont les suivants. Bon, d'abord, on reproduit la structure actuelle des planètes géantes en termes de distribution orbitale des migrants d'axes des planètes, excentricité et inclinaison par rapport à l'orbite de Jupiter. Donc, les points verts représentent les vraies planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, leur position du Soleil, leur excentricité et inclinaison relativement à Jupiter. Les points bleus représentent la moyenne entre 16 simulations qu'on a faites, dans lesquelles Uranus, Neptune et Saturne ont des rencontres plus ou moins proches entre elles. Donc, comme vous voyez, les valeurs moyennes reproduisent assez bien les valeurs observées pour nos planètes de notre système solaire, et les barres d'erreur, c'est l'écart type fait sur les 16 expériences que nous avons faites. Les points rouges, c'est la même chose, mais dans une autre série de 16 simulations, où au départ, on avait placé Uranus et Neptune un peu plus loin par rapport à Jupiter et Saturne. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là est que quand le système devient instable, Uranus et Neptune ont des rencontres entre elles, mais vu qu'ils sont partis plus loin par rapport à Saturne, aucune des deux rencontre Saturne. Et comme vous voyez, par exemple, le résultat n'est pas bon. Systématiquement, Uranus atterrit trop proche du Soleil, par rapport au vrai Uranus. Typiquement, au lieu d'arriver à 20 unités astronomiques, il s'arrête à 17. Et c'est une différence qui semble être quand même assez significative. Et aussi, les excentricités finales de toutes les planètes, et les inclinaisons aussi, sont inférieures à celles des planètes, les vraies planètes que nous observons. Donc, nous concluons qu'effectivement, ce type d'évolution, avec les rencontres entre trois planètes, reproduit bien la distribution actuelle des planètes géantes, et ceci en partant d'orbites circulaires, ce qui est très important parce que toute théorie de formation des planètes géantes prévoit que les planètes se forment sous des orbites circulaires, et les excentricités, même s'ils sont petites, modérées, des planètes géantes, constituent un problème non résolu. Le deuxième grand point de force, c'est que, bon, on est parti du bombardement tardif, on explique le bombardement tardif dans toutes ces caractéristiques observées. Donc, on a en particulier un déclenchement soudain, très brusque, donc ceci montre la quantité de matière qui frappe la Lune en fonction du temps. Et, bon, ici, vous ne voyez pas, c'est calme et plat, et puis tout d'un coup, les courbes s'élèvent, donc c'est un déclenchement soudain, très rapide. C'est un déclenchement tardif, parce qu'on a vu, c'est une migration très lente, et la catastrophe a lieu quand les planètes passent à travers cette résonance qui peut avoir lieu suffisamment tard. Les bombardements de la Lune est fait par deux populations d'impacteurs différentes. Il y a les planétésimaux qui étaient dans les disques transneptuniens, qu'on appelle les comètes, mais il y a aussi les astéroïdes, parce que quand vous déplacez brusquement Jupiter et Saturne, à travers leur résonance en deux jusqu'à leur position actuelle, qui est presque à la résonance 5-2, une grosse partie des astéroïdes de la ceinture principale devient instable et commence à croiser l'orbite de la Terre. Grosso modo, entre 80 et 95% des astéroïdes en fait, qui existaient à l'époque deviennent croiseurs de la Terre. Donc les bombardements de la Lune et de la Terre est une combinaison d'une contribution cométaire et d'une contribution astéroïdale. Les tout, grosso modo, amènent 10 puissance 22 grammes sous la Lune, qui est très bon accord avec la masse estimée en partant du comptage des cratères. Les astéroïdes auraient dû dominer un peu. On a une certaine indétermination sur les comètes. On est assez. C'est des calculs assez précis. Sur les astéroïdes, il y a un peu d'incertitude parce qu'on ne connaît pas très bien quel était l'état de la ceinture des astéroïdes avant. Mais donc, les astéroïdes semblent dominer un peu et surtout, ils arrivent un peu plus tard. Donc, ils effacent sans doute la plupart de la signature de bombardement cométaire. Et tout ce grand bombardement est contenu entre sur à peu près 150 millions d'années. Qui est plus ou moins en accord avec les données sur la durée du bombardement que la Lune nous donne. Très récemment, il y a eu un article par Strom et al. Sur Science qui ont regardé les problèmes du bombardement tardif du point de vue simplement des contraintes. Et donc Strom et al. Ont regardé la distribution des tailles des cratères qui datent de l'époque du bombardement tardif. Ils ont montré que cette distribution des tailles, une fois qu'on fait un changement d'échelle opportun, est identique à la distribution des tailles des astéroïdes de la ceinture principale. Tandis que les cratères plus jeunes, ceux qui se forment, disons, depuis 3,6 milliards d'années, eux, ils ont une distribution de taille différente. Et cette distribution de taille est identique, non pas à la distribution de taille des astéroïdes de la ceinture principale, mais à la distribution de taille des géocroiseurs, qui sont les astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre aujourd'hui. Donc la conclusion est que c'était les astéroïdes qui ont dominé les bombardements tardifs de la Lune. Bon, ça, ce n'est pas en contradiction par rapport à ce que nous disons. Mais ça veut dire aussi que les astéroïdes, à cette époque-là, ont quitté la ceinture principale par un mécanisme qui ne discriminait pas par rapport à leur taille ou à leur masse. Tandis qu'aujourd'hui, il y a une discrimination. Il y a plus d'astéroïdes petits qui quittent la ceinture des astéroïdes que d'astéroïdes gros. Et c'est dû au fait que les astéroïdes s'échappent de la ceinture des astéroïdes par des forces, par des mécanismes non gravitationnels, qui donc agissent davantage sur les objets petits que sur les objets gros. Donc les grands bombardements tardifs, c'est leur conclusion, a été causé par une fuite générale d'astéroïdes de la ceinture des astéroïdes par un mécanisme qui ne discriminait pas sur leur masse. Et le seul mécanisme qu'on connaît, c'est un balayage des résonances dû à un déplacement des planètes. Donc c'est une vérification purement basée sur les données que les bombardements tardifs a bien été dû à une migration, un déclenchement tardif de la migration des planètes géantes. Alors qu'est-ce qui a causé ce déclenchement tardif? Ça pourrait être les astéroïdes eux-mêmes? Non, même si on suppose que 100% du bombardement tardif a été fait par les astéroïdes, on trouve que la masse totale d'astéroïdes qui a quitté la ceinture est une dixième de masse terrestre. Et avec une dixième de masse terrestre, vous ne déplacez pas les planètes géantes. C'est une dixième de masse terrestre contre 300 masses terrestres de Jupiter. Donc si vous voulez déplacer les planètes géantes, ce n'est pas les astéroïdes qui peuvent le faire, ils n'ont pas assez de masse. Il faut donc un disque transneptunien massif comme dans notre modèle. Et donc la seule chose qui reste ouverte, si vous voulez, c'est les mécanismes de déclenchement. Dans notre modèle, c'est la traversée de la résonance en deux par Jupiter et Saturne. Et ce type d'analyse basée sur la distribution des tailles des cratères ne vous le dit pas. Donc, a priori, c'est possible qu'un jour, quelqu'un trouvera un élément déclencheur différent pour la migration. Mais en fait, la résonance en deux a des avantages assez importants. Si Jupiter et Saturne traversent la résonance en deux, nos simulations montrent qu'il y a une fraction des planétésimaux qui viennent du disque transneptunien qui sont capturés sur des orbites typiques des objets troyens. Donc autour des points d'équilibre de Lagrange de Jupiter, L4 et L5. Et ces objets qui sont capturés vont avoir une distribution orbitale qui s'est montrée par les points rouges par rapport aux éléments fondamentaux pour la dynamique des Troyens, je ne vais pas détailler là-dessus, qui ressemblent très fortement à la distribution observée, simplement comparer les points rouges avec les points bleus. Et ceci est le premier modèle qui explique la distribution des Troyens, en particulier la distribution des inclinaisons des Troyens. Les inclinaisons des orbites des Troyens peuvent être très grandes, jusqu'à 40-45 degrés. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'existait pas un modèle qui puisse expliquer cette grande dispersion des inclinaisons des Troyens. Et notre modèle, par contre, produit une distribution d'inclinaisons qui est de façon naturelle semblable à celle des Troyens. Donc, la résonance de 1. La traversée de la résonance de 1 semble bien avoir eu lieu, comme témoigné par la distribution des Troyens. Si tout ça était vrai, les Troyens, même si on les appelle les astéroïdes Troyens, ça n'est pas des astéroïdes du tout, ça serait plutôt des objets apparentés avec les objets de la ceinture de Kuiper, donc qui viennent du disque transneptunien. Alors ça, bon, il faut voir avec des observations si c'est vrai ou c'est pas vrai. Les Troyens n'ont jamais été visités par des missions spatiales, donc les données qu'on a sur leur nature physique sont très peu, et on a très peu de données aussi sur la nature physique des objets transneptuniens. Mais il y a quelque chose de nouveau, c'est un article qui va paraître sur Nature très bientôt. Donc il y a un Troyen binaire. Et quand il y a un Troyen binaire, bingo, parce que si on observe l'orbite d'un objet autour de l'autre, on peut déterminer les masses des objets, et si on peut calculer avec des observations infrarouges, on peut mesurer les diamètres de ces objets, on peut mesurer la densité. Donc ceci a été fait, donc pour un Troyen, et la densité qui en résulte est 0,8 g par centimètre cube, qui est très bas, et qui est inférieure à toute densité jamais mesurée pour un astéroïde, aussi bien du type S, donc chondrite ordinaire, que du type C, chondrite carbonée. Par contre, cette faible densité est identique à celle de deux objets transneptuniens, pour lesquels la densité a été mesurée de la même façon, simplement en regardant le mouvement orbital de son satellite. Donc, on est sur la bonne voie. Disons que les Troyens ont été capturés de disque transneptunien, ce qui serait la preuve définitive que le déclenchement du bombardement tardif a été dû à la traversée de la résonance en deux par Jupiter et Saturne. Donc, à la lumière du bombardement tardif, de ces modèles, mais je dirais c'est une réalité factuelle, je vais commencer par là, on peut conclure que le système solaire a eu une histoire sur trois phases, et pas vraiment sur deux phases, comme on s'attendrait a priori. Il y a eu une phase d'accrétion planétaire, où on a eu la formation des planètes géantes, la formation des planètes telluriques, et une première évolution dans la ceinture des astéroïdes qui a amené à une perte initiale des masses et une excitation des orbites. Puis le système est arrivé à obtenir une structure métastable qui a perduré pendant 600 millions d'années. Donc cette structure était différente de la structure actuelle. En particulier, les planètes étaient géantes, étaient plus proches l'une par rapport aux autres. Ils avaient des orbites plus circulaires. Il y avait une ceinture des astéroïdes qui était environ 20 fois plus massive que la ceinture des astéroïdes actuelle. Et il y avait un disque des planétésimaux transneptuniens, qui est l'ancêtre de ce que nous appelons aujourd'hui la ceinture de Kuiper, dont la masse totale était entre 35 et 50 millions d'années. Et ce système donc était quasiment stable pour 600 millions d'années, et ensuite il a évolué, il est devenu comme le système actuel, et la transition, les passages entre cette structure et la structure actuelle est marqué par ces grands chamboulements qu'on appelle les grands bombardements tardifs, qui donc a vu les déplacements des orbites planétaires, la mise en forme finale des ceintures des astéroïdes et des Kuiper, aussi la capture des Troyens de Jupiter et de certains satellites des planètes géantes qu'on appelle les satellites irréguliers. Donc c'est une nouvelle vision du système solaire qui nous ramène un peu à revisiter les étapes avant, même les étapes comme la formation des planètes telluriques, par exemple, la première mise en forme de la ceinture des astéroïdes, mérite d'être révisée en sachant que les planètes géantes s'étaient formées sur des orbites différentes que les orbites actuelles, des orbites plus circulaires et des orbites plus rapprochées l'une par rapport à l'autre. Donc, on a commencé à revisiter un peu ces différentes étapes à la lumière de ces modèles. C'est le travail que je fais cette année avec mon postdoc, David O'Brien. En particulier, on s'est penché sur la formation des planètes telluriques et l'évolution dans la ceinture des astéroïdes. Et donc, je voulais raconter quelques mots là-dessus aussi. Donc, la théorie standard sur la formation des planètes telluriques est que très vite, quand vous avez les disques des gaz et des poussières, vous avez la formation des petits objets, imaginez aux astéroïdes, qu'on appelle les planétésimaux, mais certains objets ont pu grandir et devenir beaucoup plus massifs, atteindre une masse de l'ordre entre la masse de la Lune et la masse de Mars, et ces objets on les appelle les embryons planétaires. Donc les astéroïdes, les petits planétésimaux sont ici marqués comme des petits points en couleur. La couleur marque leur position initiale pour les suivre après dans l'animation, donc vert, bleu clair, mauve et jaune. Et les embryons planétaires sont représentés par des ronds rouges qui sont ici masqués par les planétésimaux et vont apparaître très vite au départ de la simulation. Donc à la disparition de la nébuleuse, on pense que la distribution détails des objets dans les systèmes solaires internes était bimodal. On avait ces embryons planétaires, donc masse entre la Lune et Mars, puis un gap dans la distribution détails, et puis une population d'objets bien plus petits, disons, semblables aux astéroïdes actuels. Et Jupiter, selon notre modèle, avait une orbite bien circulaire. Donc on a refait les simulations pour voir si à partir d'un tel système, on arrive bien à former un système de planètes telluriques qui a un sens, qui sont plus ou moins comparables aux planètes telluriques telles que nous les connaissons. Donc cette étude a deux parties innovantes. Bon, considérer des planètes géantes sur une orbite initialement circulaire, ça c'est la nouveauté de notre modèle du bombardement tardif, et aussi grâce au fait que maintenant les ordinateurs sont de plus en plus puissants et moins en moins chers, utiliser dans la simulation des petits planétésimaux qui sont petits. C'est-à-dire, la théorie de l'accrétion initiale des objets prévoit que les planétésimaux ont grosso modo, cumulativement, la même masse des embryons planétaires. Mais ils sont petits individuellement, donc ils sont beaucoup. Mais si on arrive dans les simulations, on ne peut pas faire des simulations avec des millions de corps, ça prendrait trop de temps. Donc en fait, ce qu'on considère, c'est un nombre limité de petits corps, quelques centaines, et donc qui ont une masse qui est évidemment trop grande par rapport à la masse réelle qu'ils avaient. Et avec les ordinateurs plus puissants, maintenant on peut intégrer 2000 objets dans un temps raisonnable d'un mois de CPU, Et donc, ceci permet d'avoir plus de planétésimaux, des masses individuelles plus petites. Donc, c'est un pas vers un réalisme qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc, ici, on va voir l'évolution de ces systèmes. Le temps est en haut. Encore une fois, c'est des migrants d'axe excentricité. Donc, vous voyez que les embryons excitent beaucoup les planétésimaux. Ils deviennent très excentriques. Ils commencent à se mélanger. Vous voyez les mélanges des couleurs. Et les embryons, par contre, par interaction avec les planétésimaux, gardent des orbites presque circulaires, faiblement excentriques. Et quand les embryons collisionnent entre elles, ils vont grandir. Ici, la taille de chaque rond correspond et proportionnelle à la masse de la protoplanète qu'on est en train de former. Donc, un nombre limité de planètes telluriques se forme par collision d'embryons entre eux et aussi collision des planétésimaux sur les protoplanètes en formation. Donc, voilà, l'évolution continue dans ce type de système. On arrivera, dans cette simulation spécifique, à un système de 3 planètes telluriques entre 0,5 et 1,5 unités astronomiques. Cette courbe pointillée montre les bords actuels de la ceinture des astéroïdes. Et donc, on va voir que la plupart des objets initialement ont été perdus. Vous voyez, très peu de planétésimaux restent à la fin par rapport au nombre initial. Mais quand même, il y a des planétésimaux, des astéroïdes qui restent dans la ceinture des astéroïdes. Donc, ce type de simulation a déjà atteint un résultat important. On forme des planètes telluriques, dans ce cas 3, des masses comparables à la masse de la Terre, et on les forme seulement, on a fait 4 simulations, et toutes les 4 ont formé des planètes telluriques que dans la région des planètes telluriques. Jamais on a formé une planète tellurique dans la ceinture des astéroïdes. Et dans la ceinture des astéroïdes, il reste grosso modo 5% des objets par rapport au nombre d'objets du départ, ce qui explique pourquoi de la masse totale de la ceinture des astéroïdes est faible par rapport à la masse primordiale. Et regardons un peu plus en détail la structure des planètes qu'on forme. Donc ça, c'est les résultats finaux, la distribution finale des planètes telluriques que nous avons obtenues dans 4 simulations, comparées aux planètes telluriques réelles de notre système solaire. Donc ici, vous avez le demi-grand axe, ici, vous avez l'inclinaison, et la barre d'erreur n'est pas une barre d'erreur, mais mesure la distance minimale et maximale du Soleil, donc il donne une idée de l'excentricité des orbites. Et bon, à coup d'œil, on dirait, oui, bon, ça marche. Quoi. On a 4 planètes réelles, normalement, on en forme 3, parfois 4. Les excentricités ont l'air comparables, les inclinaisons aussi. Donc, ça a l'air de marcher. En réalité, si on fait les choses un peu plus quantitativement, les planètes telluriques qu'on forme ont des orbites qui sont légèrement plus excentriques et inclinées que les planètes réelles. Donc, on n'arrive pas encore tout à fait à reproduire le système des planètes telluriques tel que nous les connaissons. Mais les résultats sont nettement meilleurs que tout résultat qu'on avait obtenu avant. Et ceci grâce au fait qu'on a pu considérer beaucoup plus de planétésimaux, des masses individuelles plus petites. C'est l'interaction entre les embryons et les planétésimaux qui amène à des orbites finales qui sont presque circulaires et coplanaires. Pour ce qui concerne les temps de formation, donc voilà les temps que toute notre planète a mis pour se former. Donc 1 est la masse finale relative de ces objets, 1 million d'années. Donc, nos planètes prennent encore un peu trop de temps pour se former. Il y a des contraintes qui viennent des chronomètres, comme par exemple le chronomètre Hafnium-Tungstène, qui montre que le système Terre-Lune s'est complété en 30 millions d'années. Et le temps médian pour la formation de notre planète tellurique est plutôt 95-100 millions d'années. Donc, on est encore un peu long. Quoique, il y a des planètes qui se forment très vite, même dans nos simulations. Ici, par exemple, vous avez une planète dont la dernière grande collision avec un embryon a eu lieu 25 millions d'années après le départ de la simulation. Et après, il y a eu une sorte de late veneer. Et celle-ci, orange, est une planète qui n'a plus rien accrété après 45 millions d'années. Donc, on commence à voir pour la première fois des planètes telluriques qui se forment dans une gamme de temps qui est consistante avec celle qui est indiquée par les chronomètres. Mais en moyenne, ça prend encore trop longtemps. Mais encore une fois, c'est mieux qu'avant. Et donc, on pense qu'avec une nouvelle génération d'ordinateurs, quand on pourra tenir compte non pas des 1000 planétésimaux avec un 1/40 de la masse de Mars, mais 10 000 ou 100 000 planétésimaux qui sont 100 fois plus petits, on obtiendra des résultats encore meilleurs. Donc, on n'est pas trop inquiété sur le fait que notre planète prend un peu trop de temps pour se former et finalement sont sous des orbites un peu excentriques et un peu inclinées par rapport aux planètes réelles. Résultat intéressant est voir dans toutes les planètes que nous avons formées d'où vient la matière qui finalement compose ces planètes. Donc ici vous avez des camemberts, la taille de chaque camembert est proportionnelle à la masse finale de la planète, ça c'est grosso modo une masse terrestre, et les couleurs représentent quelle fraction de la matière de la planète finale vient de différentes distances héliocentriques. Vert c'est la région des planètes telluriques, donc objets, embryons ou planétésimaux initialement plus proches du Soleil que deux unités astronomiques, bleu clair de 2.5, mauve 2.53 et jaune plus grand que 4, plus grand que 3. Donc vous voyez que assez systématiquement, une fraction de la masse des planètes vient d'assez loin, vient en fait de la ceinture des astéroïdes externes. Et parfois, l'accrétion, le processus d'accrétion des planètes est un processus chaotique, stochastique, donc cette fraction change beaucoup d'un cas à l'autre. Ici, par exemple, vous avez une planète qui n'a presque pas de jaune, ici vous avez une planète qui est grosso modo au même endroit et a beaucoup de jaune, c'est l'effet de la stochasticité de l'évolution. Mais en moyenne, on n'a que 15% de la masse des planètes conformes vient initialement d'au-delà de 2,5 unités astronomiques. Donc au-delà de 2,5 unités astronomiques, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les astéroïdes carbonés, qu'on pense être corps parents des chondrites carbonées, donc du matériel carboné primitif assez riche en eau. Et donc on pense que dans ces mélanges des matières à l'intérieur des planètes telluriques explique l'origine, par exemple, de l'eau sur Terre et sur d'autres planètes telluriques. Eau qui n'aurait pas pu se condenser à une unité astronomique en voisinage de la position actuelle de la Terre à cause des hautes températures, mais qui a pu certainement, on le voit dans les météorites, se condenser dans la ceinture des astéroïdes externes. Alors, il faut savoir que la quantité de matière qui est incorporée dans les planètes telluriques en partant de la région des astéroïdes externes dépend crucialement de l'excentricité de Jupiter. Si Jupiter est initialement excentrique, par exemple une excentricité comparable à l'excentricité actuelle, en gros, il n'y a rien qui est accrété depuis la ceinture des astéroïdes. Donc les planètes, soit ça ressèche, soit, bon, il faut invoquer d'autres mécanismes pour l'accrétion de l'eau par les planètes telluriques. Si l'excentricité de Jupiter était très faible, comme prévu par notre modèle du bombardement tardif, cette quantité est par contre beaucoup plus grande, de l'ordre, je disais, de 15%. Cet apport d'eau, cet apport de matière depuis la ceinture des astéroïdes, quand arrive-t-il? Il arrive assez tardivement. Mais il ne faut pas les confondre avec un concept qui est cher aux cosmogéochimistes, qui est le late veneer. Le late veneer est la déposition des matières sur une Terre qui a déjà différencié, a déjà subi la différenciation noyau-manteau. Ce qui devrait correspondre en gros à l'âge du dernier impact géant entre embryon et la prototerre. Donc ici, on a dans ce diagramme, pour chaque planète qu'on a formée, dans les différentes simulations, donc cette espèce d'histogramme montre quand est-ce que les planétésimaux ont amené, quand est-ce que 50% des planétésimaux qui viennent de la ceinture des astéroïdes externes ont été accrétés par rapport à l'échelle de grossissement de la planète, hein, et la masse finale de la planète. Et donc on voit que les planétésimaux, la moitié de ces planétésimaux typiquement arrivent quand la planète a déjà 80% de sa masse, mais elle n'est pas encore tout à fait complétée. Et les points noirs montrent quand est-ce que les embryons qui initialement étaient dans la ceinture des astéroïdes externes ont été accrétés par la Terre. Pour, dans certains cas, il s'agit de la dernière impact, du dernier impact. Dans certains cas, non. Là, il y aura d'autres impacts à suivre après. Mais c'est assez systématiquement toujours vers les phases finales de la formation de la Terre. Ce qu'on appelle les vrais, les late veneer, c'est-à-dire la matière qui est accrétée par les planètes après la dernière impact géante, par les planétésimaux, est très peu. Vous ne pouvez pas le lire parce que c'est caché sur les tableaux, mais vous pouvez le lire ici. C'est seulement 1% de la masse de la planète est accrétée sous forme de late veneer. Et donc c'est très peu, et ceci est assez consistant avec certaines estimations faites par exemple par Dauphas et Tal sur la base de l'analyse des éléments chimiques. Et en plus de ces 1% de la masse, 80% ne vient pas de la ceinture des astéroïdes externes, mais vient plutôt de l'intérieur du système solaire. Ce qui pourrait être consistant avec certaines contraintes, comme par exemple la distribution isotopique de l'osmium. Je crois que c'est des données qui sont interprétées différemment selon, par personnes différentes. Voilà, ces résultats, en fait, qu'on reproduit ici dans des nouvelles simulations, c'est quelque chose qu'on avait déjà proposé il y a 5 ans avec des simulations numériques qui étaient beaucoup plus crudes que les simulations numériques que nous faisons actuellement. Donc la plupart des lots viennent de l'accrétion d'embryons planétaires et planétésimaux initialement placés dans la ceinture des astéroïdes externes. Et quand on a émis cette hypothèse, un certain nombre de personnes se sont évidemment lancées contre nous en essayant de mettre en avant des contre-exemples, des arguments pour contredire notre modèle. En particulier, Drake et Richter ont été très actifs. Et ils ont surtout mis en avant deux problèmes potentiels sur l'origine, sur le fait que les planètes telluriques aient accru une masse substantielle en partant de la ceinture des astéroïdes externes, et elles accru l'eau en partant de la ceinture des astéroïdes externes. Donc un premier contre-argument est que, si, disons, chondrites carbonées ont amené l'eau sur Terre, ils ont dû amener en même temps aussi des éléments sidérophiles, dans une proportion éléments sidérophiles sur eau, qui est celle que vous mesurez dans les chondrites carbonées. Alors, on peut faire le bilan des éléments sidérophiles dans les manteaux supérieurs terrestres, et donc on peut voir combien d'eau peut être arrivée sur Terre. Alors, on trouve que si cette déposition a été faite seulement sur les manteaux supérieurs, pas assez d'eau aurait pu être apportée sur Terre, et que si cette même quantité d'éléments sidérophiles est présente, non pas sur les manteaux, seulement sur les manteaux supérieurs, mais aussi sur les manteaux inférieurs, on aurait pu amener pile poil l'eau que nous voyons sur Terre aujourd'hui, ce qui semble être pas bon, parce que certainement une grande quantité d'eau a dû être perdue dans les processus d'impact et de formation de la Terre. Mais en fait, ceci repose sur la supposition que les chondrites carbonées arrivent et amènent l'eau dans un scénario late vinien. Donc la Terre est formée, la différenciation a déjà eu lieu, et il y a un puits de petites chondrites carbonées qui déposent les éléments sidérophiles et leur eau sur le manteau supérieur ou peut-être sur le manteau inférieur. Or, on en vient de voir que ce n'est pas une late vinien du tout. Disons, l'accrétion de la matière carbonée qui vient de la ceinture d'astéroïdes externe ainsi que leur eau fait partie du processus de la formation de la Terre. A lieu pendant que les impacts géants ont encore lieu et donc a lieu pendant que la Terre continue à se différencier. Et donc, il n'y a pas encore une séparation étanche entre un noyau et un manteau. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Je ne veux pas dire qu'on est consistant avec les contraintes cosmochimiques, mais ce n'est pas si simple que ça de contredire ce modèle d'accrétion de l'eau simplement en faisant une règle de 3 basée sur les éléments sidérophiles du manteau. Et le late veneer, lui, viendrait petit et viendrait plutôt d'objets internes, donc plutôt une origine instatite, chondrite ordinaire, plutôt qu'une chondrite carbonée. Donc cet argument tombe, au moins a priori. Le deuxième argument concerne les isotopes de l'oxygène de la Terre et de la Lune, qui ont la même distribution isotopique de l'oxygène. Fait remarquable, surtout en tenant compte que Mars a une composition isotopique différente, et les météorites aussi, en particulier les météorites carbonées. Et la théorie qui est généralement acceptée est que la Lune s'est formée pendant un impact géant de la Terre avec un embryon, mais la matière qui a été formée, la Lune, ne vient pas de la Terre, elle vient de l'impacteur. Donc si la Lune est identique à la Terre, ça veut dire, dans la vision courante, que l'impacteur protolunaire était identique à la Terre. Alors, c'est bizarre parce que, si on dit que la Terre a accru l'eau à travers les chondrites carbonées qui ont une distribution isotopique de l'oxygène complètement différente, ça voudrait dire que l'impacteur protolunaire a accru aussi, accrété aussi, des chondrites carbonées dans la même proportion, ce qui semble être vraiment un coup de chance extraordinaire. Mais en fait, ce problème de la similarité entre la Lune et la Terre, qu'on ne voit pas seulement dans les isotopes de l'oxygène, mais aussi dans d'autres isotopes comme le chrome, c'est un problème, indépendamment de l'origine de l'eau, du fait d'avoir accrété des objets de la ceinture des astéroïdes externes ou pas. Donc, les problèmes, je répète, viennent de ce type de simulation. Ça, c'est les simulations qui font l'état de l'art, c'est pas moi qui les a faites, ils viennent de ces deux monsieur et madame, en fait, madame Canup et monsieur Asfog. Donc, c'est des simulations à SPH, fluidodynamique, sur la formation de la Lune. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a la Terre, qui initialement est là, immobile, elle ne tourne pas sur elle-même. Et il y a un embryon qui arrive, fait la taille de Mars, et impacte la Terre, il se déchire, et il y a toute cette matière qui va en orbite autour de la Terre et va former un disque protolunaire à partir duquel on formera la Lune. Et comme vous voyez, c'est un impact presque tangent, et donc la plupart de la matière qui sort vient de l'impacteur au lieu que de la Terre. Et 80% de la matière qui va dans les disques protolunaires vient de l'impacteur plutôt que de la Terre. Donc, si on croit cette simulation, comme je vous ai dit, la similarité entre la Lune et la Terre est une similarité entre l'impacteur et la Terre. Okay. Mais cette simulation est faite en partant d'une Terre qui ne tourne pas. Donc pour avoir les mêmes moments cinétiques totaux qu'on a aujourd'hui dans le système Terre-Lune, il faut mettre tout le système cinétique dans l'impacteur. Donc c'est qui le force à avoir une trajectoire tangente. Et si on a une trajectoire tangente, il n'y a pas photo, c'est la matière de l'impacteur qui part dans l'espace. Mais si on avait une Terre qui tournait beaucoup plus vite, alors les moments il y aurait aussi un moment cinétique dans la Terre qui tourne. Donc du coup, on pourrait se permettre d'avoir un impacteur qui a un impact beaucoup plus d'efface sur la Terre. Et si on avait ça, peut-être la matière qui est éjectée dans les disques protolunaires ne viendrait pas à 80% de l'impacteur, pourrait venir à 80-90% de la Terre. Ça, c'est une spéculation. On ne sait pas faire, en fait, des simulations SPH avec une cible tournante à haute vitesse. Donc c'est juste une idée que peut-être quelque chose, il ne faut pas prendre comme une réalité absolue ce type de simulation. L'autre possibilité est qu'il y ait eu un échange isotopique entre les disques protolunaires et la Terre en formation. C'est une idée qui vient de Dave Stevenson, du Caltech. C'est une idée qu'il a proposée en meeting l'année passée. Il y a un abstract de la conférence LPSC sur ça. Donc l'idée est que quand on forme les disques protolunaires, avant la formation de la Lune, il y a une certaine période qui s'écoule, entre 100 et 1000 ans qui s'écoule, la température pourrait être très très élevée. Et donc il ne faut pas penser à un disque de débris bien froid. Les disques devaient être formés essentiellement de silica liquide, entourés d'une couche de vapeur, une sorte de nébuleuse circumterrestre de silica. La Terre elle-même n'était pas une belle Terre avec des plages, des océans, etc. Il y avait un océan magmatique à cause de l'énergie déposée par les impacts. Donc on avait un océan magmatique, une atmosphère silicatée. Et donc ce que Stevenson imaginait, que peut-être on peut avoir un échange isotopique entre l'océan magmatique et l'atmosphère silicatée, un échange isotopique entre l'atmosphère silicatée et l'atmosphère du disque, et un échange isotopique entre l'atmosphère du disque et les silica liquides dans les disques, qui a donc homogénéisé les tout. Ça aussi, c'est encore un argument un peu spéculatif. Je ne pense pas qu'il y ait eu des calculs convaincants et probants sur ça. Mais donc, ça pourrait expliquer pourquoi la Lune et la Terre sont aujourd'hui identiques, même si l'impacteur protolunaire était différent de la Terre. Et comme je vous disais, l'impacteur protolunaire n'avait aucune raison d'être égal à la Terre. Même si on oublie la matière qui vient de la ceinture des astéroïdes, même si on oublie ce modèle pour l'origine de l'eau, mais simplement on regarde la matière accrétée entre 0,5 et 2 unités astronomiques de chacune des planètes conformes, donc c'est comme avant, mais là, on regarde seulement la matière dans cette région plus confinée, vous voyez qu'il n'y a pas deux planètes qui sont identiques à cause du fait que le processus est un processus d'accrétion très hétérogène et très stochastique. Donc même des planètes qui se forment à la même distance héliocentrique vont avoir des compositions fortement différentes parce qu'ils ont accrété la matière depuis des régions, des réservoirs, de façon différente. Donc avoir ce type de résultat, que l'accrétion des planètes telluriques est un processus très hétérogène, persiste. Même si on est maintenant à la troisième génération des simulations numériques de formation des planètes telluriques, et même si l'excentricité des planètes finales s'améliore, les temps d'accrétion s'améliorent, ce type de résultat est robuste. L'accrétion des planètes telluriques est hétérogène, et donc on ne comprend vraiment pas, du point de vue astronomique, comment un impacteur protolunaire et une prototerre pouvaient être identiques. Donc on pense plutôt soit un équilibrage, soit une éjection des matières de la part de la prototerre plutôt que du proto-impacteur. Deux mots pour terminer sur la ceinture des astéroïdes. On l'a vu de l'animation, la plupart des astéroïdes partent, et il y en a seulement une petite fraction qui reste. Dans nos simulations, il y a à peu près 5%, 4% des astéroïdes qui restent à la fin de le processus de formation des planètes telluriques. Donc on pense qu'au départ, il y avait dans les petits corps environ une masse terrestre dans les astéroïdes, dans la ceinture des astéroïdes. Ça veut dire que 4% des masses terrestres restaient à la fin de la formation des planètes telluriques. La masse actuelle de la ceinture des astéroïdes est 100 fois moins, c'est 5, 10, moins 4 masses terrestres. Mais comme je vous disais, plus tard, quand il y aura les bombardements tardifs, à 650 millions d'années, il y aura une deuxième déplétion d'un facteur 20. Donc à la fin, la succession de ces événements nous ramène bien à une ceinture des astéroïdes qui est grosso modo à la masse qui est actuellement observé. Cette courbe ici montre l'excitation orbitale des objets, qui est définie comme la racine carrée de la somme des carrés des excentricités et des inclinaisons. Bon, ça monte vers 40%. L'excitation actuelle observée est 35%, donc c'est un accord assez bon. Et cette courbe pointillée est intéressante parce qu'il montre quelle fraction des objets qu'à la fin on retrouve dans la ceinture des astéroïdes n'étaient pas au départ de la ceinture des astéroïdes, mais étaient ailleurs. Et c'est 40%. Ça veut dire donc que selon ces modèles, 40% des astéroïdes que nous voyons aujourd'hui ne se sont pas formés de la ceinture des astéroïdes, se sont formés à l'extérieur, plus loin, au plus près du Soleil, et en particulier plus près du Soleil, la plus grosse partie entre 1,5 et 2 unités astronomiques. Ce qui peut expliquer, par exemple, certains types d'objets comme les corps parents des chondrites en statite, que selon certains auteurs qui ont regardé la distribution isotopique du chrome, prétend être s'être originellement formé entre la Terre et Mars. Mais la chose la plus intéressante est que, bon, si la plupart des astéroïdes qui vont être implantés dans la ceinture des astéroïdes viennent de la région juste à côté, 1,5 des unités astronomiques, il y a quand même une petite fraction, mais pas nulle, d'objets qui peuvent être implantés dans la ceinture des astéroïdes et qui viennent de très loin, à l'intérieur d'une unité astronomique entre 0,5 et 1, voire même à l'intérieur. Donc ici, ce diagramme montre quelle fraction d'objets initialement dans chaque zone arrive à atterrir dans la ceinture des astéroïdes. Donc on a environ un objet sur 1000 qui vient de la région 0,5, une unité astronomique qu'on devrait retrouver dans la ceinture des astéroïdes. Et dans cet article qui est actuellement sur sous presse Nature, on propose que ceci, cette implantation d'objets dans la ceinture des astéroïdes depuis très loin, très proche du Soleil, peut être la réponse à plusieurs paradoxes qu'on a sur les corps parents des météorites de fer. Il y a plusieurs choses qui ne tournent pas rond sur les météorites de fer. Donc, des analyses qui ont été publiées cette année montrent que les corps parents des météorites de fer se sont formés très vite, même plus vite que les chondres, que les corps parents des chondrites qui pensent être les astéroïdes. La plupart des corps parents des météorites de fer n'étaient pas gigantesques, avaient un diamètre de quelques dizaines de kilomètres jusqu'à 200 kilomètres. Donc ça veut dire que des objets de taille modérée se sont formés très très vite et se sont différenciés. Alors que dans la ceinture des astéroïdes, on a des astéroïdes assez gros qui ne sont pas différenciés du tout, et on les sait parce qu'on les a cassés en fait, la nature les a cassés. Il y a quelques objets grands, même de diamètre jusqu'à 400 kilomètres, qui sont cassés par collision astéroïde-astéroïde, et donc à former une famille d'astéroïdes, des bris qui ont des orbites semblables à celles du corps parent. Il n'y a aucune trace de différenciation là-dedans. Et dans la ceinture des astéroïdes, on voit seulement un corps différencié intact, qui est Vesta, qui fait 500 km de diamètre, et rien d'autre. Donc ça veut dire que les météorites de fer viennent aujourd'hui des débris de ces corps différenciés, qui se sont formés, se sont différenciés, ont été cassés, réduits en morceaux. Donc des objets de plusieurs dizaines de kilomètres. Tous les objets différenciés de plusieurs dizaines de kilomètres, à l'exception des Vesta, ont été détruits. Alors que l'environnement collisionnel de la ceinture des astéroïdes, ce n'est pas si extrême que ça. Des astéroïdes gros peuvent se casser, mais c'est assez rare. Et la plupart des objets plus grands que 20 kilomètres devraient être des objets intacts, qui n'ont pas été cassés pendant leur évolution. Donc on a là trois paradoxes qu'on pense pouvoir résoudre si les corps parents des météorites de fer s'étaient formés très proches du Soleil. Les temps d'accrétion est proportionnel au temps orbital. Donc, si vous allez plus proche du Soleil, vous formez des objets beaucoup plus vite. Si vous formez des objets beaucoup plus vite, si vous formez des objets beaucoup plus vite, ils vont avoir plus d'éléments radioactifs à demi-vie courte. Donc, vous pouvez les différencier, les chauffer, les différencier davantage. Et aussi, plus vous allez proche du Soleil, plus l'environnement collisionnel est extrême. Ici, par exemple, vous avez pour des objets de 20 km, la fraction des objets qui peut rester intacte en fonction du temps, sur 10 millions d'années, selon de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans la ceinture des astéroïdes, vous cassez presque pas. Presque tous les objets restent intacts. Si vous êtes entre 1,5 et 2 unités astronomiques, 10% des objets restent intacts. Mais si vous allez entre 0,5 et 1 unité astronomique, il n'y a même pas un objet sur 10 000 qui peut rester intact. Tellement est violente l'activité collisionnelle. Donc, vu qu'on a trouvé un mécanisme qui peut implanter dans la ceinture des astéroïdes des objets qui viennent de très proche du Soleil, on propose, c'est quelque chose qu'il faut tenir à l'esprit en analysant les différentes contraintes sur les corps parents des météorites de fer, on propose que ces corps parents venaient de l'intérieur du système solaire et ont été dispersés par les embryons planétaires jusqu'à s'implanter de façon permanente dans la ceinture des astéroïdes. Donc voilà, ceci est la vraie conclusion. Donc, on a commencé par un modèle sur l'origine du bombardement tardif, et ce modèle est assez satisfaisant parce qu'il est consistant avec beaucoup de données qu'on a sur les orbites actuelles des planètes, sur le nombre des cratères, leur datation sur la Lune, sur les propriétés des astéroïdes troyens, etc. Donc, ça donne un peu en tout qui a l'air assez satisfaisant. Si on croit à ce modèle, mais En général, si on croit au bombardement tardif comme un événement cataclysmique tardif, ça veut dire que l'histoire du système solaire a eu lieu en trois étapes. Et que, donc, il y a eu une première étape de formation planétaire, un système solaire qui a atteint une structure assez différente de la structure actuelle, qui a perduré pendant longtemps, qui a eu un chamboulement, qui m'a marqué par les bombardements tardifs, et le système solaire est devenu celui que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, on a revisité un peu les premières parties à la lumière de ce nouveau paradigme. Donc, en particulier, on s'est penché cette année sur la formation des planètes telluriques et l'évolution primitive de la ceinture des astéroïdes. Donc, les planètes qu'on forme ne sont pas parfaites encore. Typiquement, elles sont trop excitées dynamiquement à la fin, des excentricités un peu trop grandes, une inclinaison un peu trop grande, et ils se forment encore un peu trop lentement. Mais c'est des problèmes en voie de disparition. Donc, chaque fois qu'on fait une meilleure simulation, ça va mieux. Donc, on peut avoir du bon espoir. On persiste des signes sur notre modèle sur l'origine de l'eau sur Terre, c'est-à-dire on voit que même si Jupiter a été suffisamment circulaire au départ, il y a une quantité non négligeable de matière qui est accrétée par les planètes telluriques depuis la ceinture des astéroïdes externes. On insiste à dire que le modèle classique reconnu sur la formation de la Lune est trop simpliste, et en particulier dire que 80% des matériels qui forment la Lune viennent de l'impacteur protolunaire amène à des contradictions trop fortes par rapport aux résultats des simulations. Donc c'est quelque chose à revoir dans le futur, même si c'est très difficile. On explique les propriétés principales de la ceinture des astéroïdes, la distribution orbitale, la faible masse, les mélanges entre les astéroïdes des spectres différents. Et on fournit aussi un nouveau cadre pour peut-être résoudre un certain nombre de paradoxes qui se présentent quand on considère le problème de l'origine des météorites de fer. Et voilà, donc j'espère de vous avoir donné une idée de l'avancement du côté des astronomes de la compréhension de la formation du système solaire et surtout vous avoir montré qu'aujourd'hui, on cherche à attaquer ce problème de façon globale, non pas en se concentrant sur un détail, mais en essayant de reproduire le système solaire dans ses caractéristiques globales, en partant des planètes telluriques jusqu'à la ceinture de Kuiper, et en tenant compte, au mieux que possible, des contraintes qui viennent de la cosmochimie et de la géochimie. Et donc, ben, voilà, donc on peut ouvrir le débat, en particulier ce que j'attends de vous est un retour du point de vue de la géochimie. Est-ce qu'il y a des contraintes qu'on n'a pas considérées ou est-ce qu'on a mal interprété des contraintes et voilà. C'est comme ça qu'on peut essayer d'avancer dans cette discipline qui est très compliquée, donc par une approche multidisciplinaire où les uns et les autres avancent en même temps en fournissant des contraintes et des résultats des simulations et d'analyses pour essayer d'avoir, de bâtir un scénario consistant et cohérent. Merci.